Bonjour, merci de m'avoir présenté et je vous remercie aussi beaucoup de pouvoir présenter mon exposé après Monsieur le professeur Kazatchkine pour parler justement l'une des trois grandes épidémies ou de l'une des trois grandes maladies infectieuses. Moi, je vais effectivement mettre l'accent sur la tuberculose parce que c'est mon secteur d'activité et je trouve également que cette maladie avait tendance à être négligée entre-temps mais doit maintenant également être considérée avec plus d'attention. Et je veux montrer également que la tuberculose, à l'heure actuelle, augmente en raison du virus VIH-Sida. En tout cas, c'est le cas en Afrique. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi cette maladie est maintenant en train de redevenir autonome. Et même indépendamment du Sida, maintenant, à nouveau, elle se développe. Alors, les maladies infectieuses, mesdames et messieurs, ont tendance à être de plus en plus dans les grands titres à l'heure actuelle, depuis 2000, 2002, 2003. Vous voyez donc ici à peu près 800 cas de décès et à 5N1, par exemple, vous voyez 300 cas, par exemple, et 160 cas de décès. Bon, il ne faut pas se tromper pour autant, bien entendu. Ça n'est que la pointe de l'iceberg, pourrait-on dire, le sommet de l'iceberg. Car le VIH et tuberculose, vous avez 15 000 infections pour le VIH et 150 000 pour la tuberculose. 7 000 personnes qui décèdent du VIH et 6 000 de la tuberculose et 15 000 nouveaux cas VIH, 15 000 nouveaux cas de tuberculose. Et tout ça, ce sont des chiffres donc au jour le jour, des chiffres quotidiens. Alors, nous avons donc un problème tout à fait différent des autres maladies infectieuses dont on a parlé précédemment. Alors, je voulais vous donner d'abord une petite vue d'ensemble en ce qui concerne la tuberculose, puis revenir donc sur certains éléments. Et je voulais le faire, disons, comme quelqu'un qui fait de la recherche fondamentale, qui est naïf et qui essaie de voir donc comment les recherches ne doivent pas se faire en laboratoire stérile, au sens propre du terme, car nous travaillons effectivement avec des cultures stériles. Mais entre-temps, donc, j'ai remarqué à quel point il est important d'être sur le terrain, là où ces maladies se développent. Et entre-temps, on a remarqué justement quelle est l'importance des contacts avec le secteur de la santé publique. Donc, par an, 2 millions de décès qui meurent de la tuberculose et 9 millions de personnes infectées, contaminées. Et voilà, ça fait partie donc des trois grandes épidémies avec la malaria, avec le sida. Et donc, il faut savoir que 85% des cas se trouvent en principe dans les pays en voie de développement. Cependant, nous verrons que la tuberculose ne se limite pas à ces pays et qu'en Europe, au contraire, la tuberculose à nouveau augmente dans de nombreux pays, surtout en Europe de l'Est, où là, on atteint des dimensions qui sont extrêmement menaçantes. Permettez-moi également de citer encore un point, à savoir que 2 milliards de personnes, donc un tiers de la population mondiale, est infectée par le bacille de la tuberculose. Et donc, ça veut dire que la tuberculose ne se déclenche pas comme maladie chez toutes les personnes atteintes. Ça ne débouche pas automatiquement sur une tuberculose. En fait, il n'y a que 10% des personnes infectées qui ensuite tombent malades. Et donc, c'est tout le secret, justement, de cette liaison dangereuse entre le sida et la tuberculose. Comme vous le savez, comme on vous l'a dit, le VIH se trouve justement donc au niveau de la déficience immunocytaire. Et ce sont justement donc ces éléments qui contrôlent l'agent pathogène et qui font que 90% donc peuvent avoir ce système de contrôle et ne tombent pas malades, alors que pour les 10% restants, au contraire, la tuberculose va se déclarer. Alors voilà donc les données sur la tuberculose. tuberculose. Et vous voyez ici clairement ce qui est représenté en rouge foncé. Ce sont les pays de la zone subsaharienne qui sont les plus touchés. En orange, vous voyez également des incidences, des niveaux d'incidence très élevés. Mais c'est terrifiant en ce qui concerne donc l'Afrique subsaharienne, de 300 sur 100 000. Alors, encore une fois, cette liaison dangereuse entre le VIH, SIDA et la tuberculose. Vous avez donc 2 milliards de personnes qui ont ce bacille de la tuberculose et donc 40 millions avec le virus VIH et donc ça donne 15 millions en tout. Vous avez 5 millions qui sont affectés donc par an par le réseau VIH, 50 millions de la tuberculose par an donc et l'ensemble. Ça donne par année donc 2 millions de personnes touchées par les deux maladies. Et c'est justement le problème. Un très grand nombre d'infections de la tuberculose qui normalement ne déclencherait pas la maladie, mais qui en raison du sida déclenche cette maladie. Et alors, donc, vous avez justement le sida qui est ensuite la cause numéro un de décès par ces personnes qui sont également touchées de la tuberculose. Alors, vous voyez encore une fois les chiffres ici, donc 2 millions de décès dus à la tuberculose par an et pour les deux maladies à la fois, donc 900 000. Et ce sont donc les chiffres par les personnes touchées également par le sida. Prenons donc encore une fois la zone subsaharienne. Vous avez 50 millions de personnes qui vivent dans cette zone et on a plus de 5 pays, donc plus de 10% y sont touchés et ça l'a fait 600 pour 100 000 et qui sont touchés par la tuberculose. Et si vous me demandez combien de personnes sont atteintes du bacille, eh bien, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais je peux vous dire que nous partons du principe qu'il y en a presque à 100%, car nous connaissons l'épidémie de 1910 en Europe, par exemple, et on savait qu'à cette époque, toute personne qui est morte d'un accident ou d'une autre maladie portait en elle le bacille de la tuberculose. Et on peut partir, par exemple, dans les bidonvilles d'Afrique. Tout le monde est touché. Et je dirais c'est presque, ce sont presque 100% de personnes touchées. Il s'ajoute 120 000 tuberculoses diagnostiquées par an. Donc, un nombre très important de personnes doublement infectées. 60% à la fois donc par VIH et tuberculose. Beaucoup de personnes où donc l'ART, les antirétroviraux ne sont plus suffisants, ne peuvent plus donc être traités seulement de cette manière-là. Ils doivent avoir non seulement une thérapie antirétrovirale et aussi donc des statiques contre la tuberculose. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voulais vous dire pourtant que malheureusement, jusqu'à présent, ces trois maladies ont été étudiés de manière trop isolée. Il est grand temps maintenant d'établir le lien entre les trois grandes épidémies. Et c'est justement l'objet de la santé publique, car c'est très important. Il y a de plus en plus de tuberculose qui se déclare donc chez des patients qui sont atteints du VIH et qui ont des antirétroviraux comme thérapie. De telle sorte qu'il y a une sorte de dualisme et même une sorte de lutte, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est prioritaire. Est-ce que je traite le sida ou le VIH ou est-ce que je traite la tuberculose, des problèmes culturels et moraux très importants. Heureusement, et ça c'est le point suivant, en Afrique du Sud, la part des tuberculoses multirésistantes va en diminuant. Cependant, nous en arrivons au deuxième problème, ce qui rend donc cette maladie tellement terrifiante, c'est justement la conjonction donc, des deux maladies et justement l'augmentation de sortes multirésistantes. Vous avez par exemple 10% des cas de tuberculose qui sont multirésistants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là? La multirésistance, ça veut dire que le bacille, l'agent pathogène, est résistant au moins à deux médicaments de premier choix. C'est-à-dire que l'on ne peut plus lutter avec les moyens classiques de premier choix. Ça ne paraît peut-être pas si grave pour vous, mais c'est quand même d'une grande importance. Quand on parle du premier choix, de la première thérapie, eh bien, ce sont des médicaments qui sont encore supportables. Il ne faut jamais essayer que, oublier qu'il y a trois médicaments différents pour la tuberculose qui doivent être pris sur une phase de 6 mois. Si l'on n'a plus ces médicaments de premier choix, il faut prendre les médicaments de second choix. Et à ce moment-là, il faut voir que les effets secondaires vont encore en augmentant. Et alors, la compliance, c'est-à-dire donc la disposition du patient à prendre ses médicaments, va diminuer. Et par conséquent, ça augmente encore ces multirésistances. Et ne croyez pas non plus que ça se passe seulement dans les pays en voie de développement. Ces données très élevées, vous les trouvez aussi dans des pays en voie dans des pays de l'Union européenne, par exemple les États baltes et dans d'autres pays où là, on a également ces chiffres de résistance très élevés. Cependant, la situation s'est aggravée encore. Dans 38 pays à travers le monde, nous avons déjà donc des agents extrêmement résistants contre lesquels nous ne pouvons plus faire, c'est-à-dire des agents XDR. Et là, vous pouvez dépenser autant d'argent que vous voulez, vous ne trouvez plus donc de possibilités, c'est-à-dire donc des tuberculoses extrêmement résistantes, XDR. Parmi les patients donc positifs du VIH, vous en avez 52 qui sont malades, 53 qui meurent. Donc, cela veut dire que l'on a là des pays où il n'est plus possible de traiter les maladies, même donc dans des pays industrialisés à ce moment-là. Et sur les 38 pays qui ont indiqué justement qu'ils ont affaire à des agents XDR, il y a même encore aussi l'Allemagne et la France entre-temps. Ne croyez pas non plus que ce soit les problèmes les plus graves que nous ayons et qui sont rencontrés dans les pays en voie de développement. La situation la plus grave se trouve dans une partie de l'Europe, dans une partie de la Russie, à savoir dans les camps de travail et dans les prisons de Russie. Les prisons de Russie ont 1 million de places, la place pour 1 million de détenus. Quand il y en a un qui rentre, il doit y en avoir un autre qui sort. Alors, nous pouvons partir du principe. Nous voyons, nous avons 300 000 entrées. On pourrait penser qu'il y en a tout autant qui quittent la prison. Or, ceux qui sont déjà atteints de la tuberculose, c'est un nombre très élevé quand ils arrivent en prison. Quand ils en sortent, c'est encore plus élevé. Donc, et un quart sur ce chiffre sont déjà multirésistants. Et il ne faut pas oublier non plus que le bacille de la tuberculose, comme d'autres, on le transmet pas simplement par la respiration et alors il ne s'occupe pas des grilles de la prison ou bien des gardiens de prison. Il ne fait pas la distinction si c'est un gardien, si c'est un détenu. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner que les objectifs du millénaire ne puissent pas être respectés probablement d'ici 2015. Vous savez que les objectifs du millénaire ont été élaborés sur la demande de Kofi Annan avec l'Organisation mondiale de la santé, avec Madame Brundtland. Et l'objectif, c'était de faire reculer la tuberculose et le VIH d'ici 2015, ou au moins d'inverser les tendances, au moins ne pas avoir d'augmentation, si possible, avoir une diminution. Il faut partir du principe que dans la plupart des pays d'Europe et du monde, on n'atteindra pas cet objectif. Par exemple, dans l'Afrique subsaharienne ou bien à l'est de l'Europe, par exemple, on restera bien en deçà des objectifs parce que la situation est très grave. À quoi est-ce que cela tient? Permettez-moi peut-être de faire un petit peu de jeter un regard sur l'histoire. Il y a eu ici à Berlin un appel qui a été lancé en 1882 sur l'étiologie de la tuberculose avec Monsieur Koch. Et dans cet exposé, ce Monsieur Koch a décrit pour la première fois cet agent pathogène ou ce microbe qui est responsable de la tuberculose. Il a trouvé ce microbe pratiquement dans tous les organes. Et on voit ici que c'était représenté donc en brun, ici. Et ensuite, c'est Paul Ehrlich, qui ensuite était collaborateur de Koch, qui a choisi une autre couleur et depuis, donc, on représente ces agents en rouge. 10 ans plus tard, alors nous avions par exemple un tiers des décès à Paris et à Berlin qui étaient causés par la tuberculose. Alors, Cor s'adresse à nouveau à l'opinion publique et cette fois, il affirme avoir trouvé un vaccin contre la tuberculose. Malheureusement, ceci s'avère être une erreur très rapidement. Mais qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré qu'il y avait donc une possibilité de diagnostic avec le test à la tuberculine. Et je vous disais que 100% des adultes à ce moment-là étaient touchés par le microbe. Il n'a pas pu l'essayer lui-même sur lui. Il était positif lui-même. Il ne pouvait pas avoir de test négatif. Tout le monde, tous les adultes autour de lui étaient positifs. Donc, il a eu la chance de trouver une jeune fille de 17 ans qui est devenue sa femme. Après, d'ailleurs, après avoir divorcé de sa première épouse, il a épousé cette jeune fille. Il l'a trouvée. Elle était donc négative et il l'a prise, pour ainsi dire, comme cobaye. C'était cette personne qui, pour la première fois, donc, avait un test négatif. Bon, ça, c'est la petite histoire. Vous pouvez relire tout cela. Ensuite, pour ce qui concerne ensuite l'élaboration d'un vaccin, eh bien, ce sont Calmette et Guérin, ensuite, qui ont eu davantage de succès. À la suite de Pasteur, ils ont pu atténuer donc le bacille et mettre au point ce bacille de Calmette et Guérin. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui est important, c'est de savoir que pour le diagnostic, nous utilisons donc encore la coloration dans le sputum, comme le faisait déjà donc Cor. Et sinon, nous utilisons toujours aussi la même tuberculine, le test tuberculine, comme Robert Cor l'avait décrit dès 1890. Pour la vaccination, nous utilisons toujours le vaccin BCG de Calmette et Guérin. Et pour la thérapie, encore, on utilise à peu près les mêmes médicaments qui ont été donc élaborés en 1960-70. Mais ça ne peut pas être suffisant. C'est notre situation en ce qui concerne la tuberculose. C'est une situation absolument impossible. Le test du sputum, donc, ne permet de repérer que 50% des cas de tuberculose. Et surtout pour les personnes qui sont doublement touchées, on n'a jamais donc de diagnostic sûr. Le vaccin du BCG permet de protéger les enfants, les nouveau-nés contre la tuberculose. Mais ça ne protège pas les parents de ces enfants et il n'a absolument aucun effet en ce qui concerne donc les adultes. Et la tuberculose pulmonaire chez l'adulte, par exemple, chez les personnes de 15 à 45 ans, cette maladie-là donc ne peut pas être évitée grâce au vaccin BCG. Et puis, je vous disais, pour la thérapie, il y a entre-temps donc des formes MDR et XDR, donc c'est-à-dire extrêmement résistantes. Et donc, il faudra vraiment trouver de nouvelles possibilités d'intervention. Il est grand temps d'avoir de nouveaux diagnostics, de nouveaux vaccins et de nouveaux médicaments. Et n'oubliez pas non plus que la tuberculose, c'est une maladie lente qui se développe lentement en laboratoire chez le patient. Et ce que nous découvrons aujourd'hui, nous en aurons les effets dans 10 ou 15 ans. Regardons encore une fois, monsieur le professeur Kazakhstine l'a déjà dit tout à l'heure, regardons de plus près quelles sont les maladies qui existent pour l'industrie pharmaceutique. Alors, ce qu'on appelle les blockbusters, c'est plus $1 million. Alors, ce sont les maladies cardiovasculaires. Ce sont donc véritablement des cibles pour les blockbusters. Ensuite, il y aurait des cibles intéressantes comme le sida. Et puis, il y a les maladies qui n'intéressent personne. Et il y a, entre autres, les maladies tropicales et aussi donc le paludisme et aussi encore maintenant donc la tuberculose. Ceci se reflète, par exemple, en ce qui concerne les groupes de médicaments. Quand on regarde les groupes de médicaments qui sont arrivés sur 25 ans sur le marché, il y en avait une très forte proportion, donc, pour ce qui concerne le sida, 90 pour les maladies respiratoires non infectieuses, 179 pour les maladies cardiovasculaires, 4 pour le paludisme, 3 pour la tuberculose. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce moment-là à avoir des médicaments donc très nouveaux. À quoi est-ce que cela est dû? Eh bien, à cette proportion, 10% contre 90%, donc dans la recherche pharmaceutique et en ce qui concerne la recherche pour, en matière de santé publique. C'est une règle qui dit que 10% seulement des dépenses privées ou publiques dans le domaine de la santé concernent des problèmes qui touchent 90% de la population. 10% sont consacrés à des maladies dont souffre 90% de la population, n'est-ce pas? Donc, il y a un déséquilibre. Il faut essayer d'aller à l'encontre de ce déséquilibre. Et c'est bien compréhensible pour les investissements, pour les sociétés qui s'orientent en fonction des profits réalisables. Alors, on regarde en rouge les blockbusters, en bleu, donc la tuberculose et d'autres maladies, des maladies infectieuses qui sont négligées. Et vous voyez que les recettes sont beaucoup plus importantes pour la ligne rouge. Eh bien, il y a une énorme différence pour les blockbusters. Et là, ça vaut la peine de développer des médicaments, alors que pour la tuberculose et en partie aussi pour le sida et en partie pour le paludisme, vous avez des dépenses qui vont bien au-delà des recettes. Si on veut changer cela, et nous sommes d'accord pour dire qu'il faut changer cela, eh bien, il faut développer de nouvelles stratégies dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Très brièvement, je vais y revenir. D'abord, nous pouvons essayer d'augmenter les profits, les bénéfices. Et il y a les programmes, ce qu'on appelle les programmes pool pour tirer. Ce sont des programmes qui sont généralement négligés, des programmes qui permettraient aux chercheurs dans le domaine universitaire, mais aussi dans le domaine industriel, d'avoir un objectif. Et on leur dit, voilà, si tu débouches sur le bon produit, tu auras aussi le soutien correspondant. C'est-à-dire, par exemple, des réductions de taxes de fiscalité. Permettez-moi de dire que, par exemple, en Grande-Bretagne, aux USA, en Italie, c'est le cas. Donc, avec des dégrèvements fiscaux ciblés pour certains médicaments, cela existe. On connaît la législation, donc, aux États-Unis. Mais ce n'est pas encore possible pour les maladies dont j'ai parlé. On peut aussi parler de différents prix, les systèmes avec les différents prix. Là, avec donc les conventions TRIPS et les accords de Doha, donc d'accepter d'avoir des prix différents. Et puis, ce qui est très important, donc c'est un marché garanti avec des prix fixés. C'est-à-dire une organisation, que ce soit la fondation de Bill Gates, que ce soit le Fonds mondial, que ce soit d'autres, qui disent si tu as le produit, on en achètera 50 millions d'unités, par exemple, pour arriver donc à faire diminuer les risques de lancement sur le marché. C'est une possibilité aussi. Et là, il y a des exemples aussi. Les ménages de Koch, par exemple, lorsqu'ils se sont développé au Royaume-Uni, eh bien, on a dit à l'industrie pharmaceutique, nous vous garantissons le premier qui trouve le vaccin, on leur prend donc 1 million de doses, le deuxième, la somme correspondante, etc., pour aboutir le plus rapidement possible. Il y a cependant un autre domaine que je trouve encore beaucoup plus important, c'est la diminution des investissements, car là, c'est une approche très intéressante pour la recherche industrielle et la recherche universitaire pour créer des partenariats publics-privés. Regardons la situation en ce qui concerne la tuberculose. Moi, je la suis depuis très longtemps. Dans les années 80, J'ai fait partie des premiers groupes qui ont dépensé donc des sommes spécifiques pour la tuberculose. Dans les années 80, nous avions à peu près 5 millions de dollars américains à notre disposition pour la recherche sur la tuberculose, c'est-à-dire quasiment zéro. En 93, 50 millions, maintenant 400 millions. C'est bon. Une augmentation tout à fait remarquable pour ce qui concerne les investissements, la recherche sur la tuberculose, et ça a été renforcé par le phénomène du sida. Naturellement, ça a fait avancer les choses. Nous en avons déjà parlé précédemment. Pourtant, regardons quand même de plus près. Voyez ici donc la clé de répartition des ressources pour la recherche à travers le monde entier. Vous voyez le numéro 1, le NIH, donc aux États-Unis, il n'y a rien de comparable, je pense, en France ou en Allemagne. L'Union européenne, dans son ensemble, est présente ici. Mais il faut vraiment applaudir avant de poursuivre, donc applaudir le NIH pour ce qu'ils ont fait. Regardons donc la situation par rapport à d'autres maladies. Alors, je vous disais, donc, 160 millions pour la tuberculose, 90 pour le paludisme, mais ça, c'est lié au fait qu'il y a d'autres trusts, enfin, d'autres fonds à travers le monde qui se penchent sur la question de du paludisme. Alors, maintenant, près de 3 milliards pour le sida. En revanche, ce que je trouve bizarre, c'est la somme donc qui est consacrée donc à la variole et donc qui n'a plus atteint plus personne, et l'anthrax où l'on a encore des budgets d'investissement importants et plus importants que la tuberculose. Ça, je trouve que c'est une honte. L'organisation Stopper la tuberculose, Stop TB, indiquer donc les moyens dont on avait besoin pour la recherche et le développement pour les 10 années à venir, 9 milliards de dollars américains, 60 millions pour de nouveaux produits diagnostiques. Souvenez-vous que nous utilisons encore les tests de l'avant-dernier siècle, 418 millions pour les nouveaux médicaments. Je vous rappelle que nous avons besoin de 3 médicaments au moins pour soigner une seule personne et 209 millions pour les nouveaux vaccins, car je vous rappelle que le vaccin BCG n'a d'effet que pour les nouveau-nés et les enfants et qu'il échoue totalement en ce qui concerne la tuberculose des adultes, qui est la forme la plus répandue. N'oubliez pas non plus que le temps presse. Imaginez que la sida se soit déclarée 10 ans plus tôt. À ce moment-là, on n'avait pas encore éradiqué complètement la variole. Il y a eu encore des cas de variole citée. Et alors, si on avait eu, par exemple, la variole et la tuberculose en même temps, alors, on a un vaccin contre la variole qui est extrêmement efficace, qui serait probablement plus autorisé à l'heure actuelle. Et pour les individus donc atteints du sida, on aurait stoppé immédiatement la variole, les vaccins contre la variole. La variole, à ce moment-là, serait restée en Afrique. Et on aurait donc, en plus avec la tuberculose, eu encore une autre problématique qui se serait ajoutée. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre, de faire de l'attentisme dans ce secteur. Et puis, c'est un argument pour moi dans la recherche fondamentale d'intervenir. Je veux dire, je ne vais pas remettre en question la recherche fondamentale, mais je souhaite poser les bonnes questions. Et à l'Institut Max Planck, conformément à nos statuts, nous essayons de fournir la meilleure qualité possible au niveau scientifique et de ne pas faire de compromis en ce qui concerne la qualité de la science. Mais nous ne voulons pas non plus faire de compromis sur la façon de poser la question. Il ne s'agit pas simplement de proposer des modèles qui permettent de résoudre tout en quelques heures. Permettez-moi de vous exposer la façon dont nous essayons d'agir dans ce secteur pour se replacer ensuite dans le contexte global de la société. Comme je disais, donc le vaccin BCG, malheureusement, n'a qu'un effet limité. Cela empêche seulement donc la tuberculose chez le jeune enfant. Cependant, le vaccin BCG est le vaccin le plus répandu à l'heure actuelle. Et si l'on part du principe qu'il y a 4 millions d'enfants qui sont vaccinés au BCG à travers le monde, eh bien, on peut dire qu'il s'agit bien justement donc du programme d'immunisation contre la tuberculose. Et cela fait partie donc du financement correspondant. Donc, nous avons ici vaccin vivant, mais cependant avec un profil de protection très clair, avec des effets plus efficaces que chez d'autres. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre simplement ce vaccin de Calmette et Guérin et l'améliorer, essayer de l'améliorer au lieu d'essayer de tout reprendre à zéro. Prenons le vaccin du BCG, essayons de voir si l'on peut améliorer ce vaccin qui avait été développé jusqu'en 1921 par Calmette et Guérin. Comment faire? Eh bien, en principe, il y a deux possibilités. Il y a une atténuation donc de la vaccine. Il passe en dessous de 130 gènes qui sont responsables de sa virulence. Alors on peut dire qu'à ce moment-là, il y a des structures importantes qui se perdent pour le système auto-immunitaire. Et nous pensons qu'il y a 4000 gènes qui existent encore et qui permettent de produire suffisamment d'antigènes. Il y a une autre chose. Le BCG ne stimule pas forcément la bonne réponse immunitaire. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voulais simplement vous montrer que l'agent de la tuberculose est le ainsi que le vaccin BCG peuvent résister à des macrophages. Voilà la représentation de macrophages ici. Et normalement, donc, lorsqu'on est absorbé par un macrophage, c'est tué par le macrophage. Mais cela ne vaut pas ni pour l'agent, ni pour le vaccin BCG. Au contraire, le vaccin ou l'agent pathogène disparaissent à l'intérieur des macrophages et ne sont plus accessibles au système immunitaire. Cependant, on peut modifier le vaccin de telle sorte que les antigènes soient à nouveau accessibles au système immunitaire, soient en quelque sorte mieux présentés. Et à ce moment-là, théoriquement, vous devriez avoir une réaction immunitaire améliorée sur le plan qualitatif surtout. Alors, il y a des expériences qui le prouvent et ça montre bien donc ce que nous demandons à nos doctorants et aux post-doctorants. On commence à la journée zéro, vaccination BCG ou vaccin combiné que nous avons développé. Et on attend 120 jours. Ensuite, on attend encore 240 jours et... Donc, une année s'est passée entre-temps. Donc, ça veut dire que 3 fois, donc, le doctorant pourra répéter ses opérations. Alors là, vous avez donc l'agent de la tuberculose et on va voir ensuite la réponse. Alors, je vous montre donc ici donc les... la réduction des gènes ici et on voit ensuite la réaction multipliée par 100 pour le vaccin combiné. Mais je vous dis, donc il y a des laboratoires, ces catégories sont utilisées dans tous les laboratoires, c'est bien répertorié, on connaît exactement, mais est-ce que ça reflète encore la réalité? Est-ce que ça reflète bien ce que l'on voit dans la réalité? Et là, c'est là que nous rejoignons donc la santé publique et les épidémiologiques, car nous savons qu'il y a toute une famille d'agents de la tuberculose qui sont partis de Pékin. Et c'est ce que l'on appelle justement la catégorie Beijing. Ce sont donc des catégories qui sont diffusées ensuite dans toute l'Europe et qui sont responsables donc de la tuberculose et chez les individus atteints du VIH, d'abord aux États-Unis. Mais en fait, bon, c'est toujours donc cette catégorie de Beijing. ces souches-là, donc, ont les particularités suivantes. D'abord, elles sont très souvent multirésistantes. Et on voit que ces souches se sont développées, ce sont des mécanismes d'évasion en cas de traitement insuffisant. Et là, vous voyez apparaître justement ces souches multirésistantes à ce moment-là. Et alors, le vaccin BCG ne peut rien faire contre ces catégories, contre ces souches-là. De toute façon, la réaction immunitaire est faible et ça ne donne pas de protection aux adultes. Et là, la thèse, l'hypothèse, c'est que... on voit apparaître des souches qui sont encore moins touchées par la réponse immunitaire. Alors, vous voyez ici, donc, le vaccin de combinaison ici qui reste quand même très puissant. Bon, souvent, nous avons différents algorithmes qui sont présentés ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 1 million de gènes dans les poumons, vous en avez 99,5 qui peuvent être inhibés dans leur croissance, finalement. Où en sommes-nous maintenant avec ces souches utilisées pour les vaccins? Nous avons montré... qu'il n'y a pas de virulence chez des animaux qui ont une défense immunitaire insuffisante. Donc, ça marche mieux que le vaccin BCG connu jusque-là. Cependant, toutes les administrations de réglementation disaient « Bon, c'est une très bonne chose. Si l'on a un vaccin qui est soit plus sûr ou plus efficace, bon, les organes de régulation, très souvent, donc s'appuient surtout sur la sécurité, sur l'aspect sécurité du vaccin. Entre-temps, il y a donc une licence, un brevet pour ce vaccin. Et nous avons donc au niveau du génie génétique, ça représente le niveau le plus bas, de telle sorte que cela peut être également administré à des êtres humains. Et cela est produit selon donc, les dispositifs GMP. Et on arrive maintenant à la phase d'essai. Il y a également une fermentation de masse qui a été lancée. Je ne vais pas entrer dans les différents détails des étapes. Mais dès cette décennie, dès 2010, nous allons maintenant arriver à la phase clinique numéro 2. Et au-delà de 2010, on pourra arriver vraiment à l'étape clinique. Et vous voyez encore une fois combien de temps ça dure lorsqu'il s'agit donc de la tuberculose. Entre-temps, il y a 3 ou 4 groupes différents qui ont essayé d'élaborer d'autres vaccins, mais qui reposent sur d'autres principes. Il s'agit donc d'autres vaccines qui sont greffées sur le BCG existant et qui doivent donc permettre d'avoir un effet sur les adultes. Je disais que de toute façon, il y a toujours une concurrence entre les différents groupes. Et je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que finalement, ce sera la combinaison des différentes solutions qui permettra de déboucher, d'aboutir, d'avoir un meilleur vaccin BCG, un vaccin amélioré, et en même temps, essayer de trouver les vaccines dont de division optimale. Et là, ce sont donc des données très récentes en ce qui concerne les aspects économiques de ces vaccins avec le soutien de la Fondation Bill Gates. Remplacement du BCG, c'est à peu près 50 millions par an. Et le booster, ça représente 60 millions par an. Et la combinaison des deux, donc, alors meilleur BCG plus vaccine de division, cela arrive vraiment presque au niveau d'un blockbuster. Mais bon, je ne sais pas si c'est très crédible tout cela, mais je veux dire simplement qu'il y a quand même déjà une certaine masse ici. Et Dieu merci, il y a des industries pharmaceutiques qui s'intéressent donc à un tel vaccin. Et en tout cas, il y a un soutien de la part de la Fondation Bill Gates. très brièvement un autre projet donc qui nous a amené vraiment donc à nous pencher sur le cas de l'Afrique, là où il y a également le sida. Et là, comme je vous disais, je suis vraiment un adepte d'une vaccination combinée qui vraiment serait composée de deux éléments. Mais en fait, c'est un scénario épouvantable pour toutes les agences de régulation. Car dans ce cas-là, on a besoin de deux médicaments qui sont d'abord testés de manière séparée, ce qui fait qu'en fait, vous avez trois études différentes, trois phases différentes. D'abord un élément, ensuite l'autre élément et ensuite le vaccin dans son ensemble. Et cependant, on pourrait peut-être quand même abréger le tout. Il y a 4 ans, j'avais un rêve et ça s'est réalisé partiellement grâce au soutien de la Fondation Bill Gates. Ce que nous nous sommes dit, c'est que si nous avions une réaction, regardons de près les réactions chez les patients infectés, les patients sains, et voir qu'est-ce qui distingue le patient sain et le patient malade. Rappelez-vous que 90% des personnes infectées ne tombent pas malades. C'est-à-dire que nous pouvons apprendre avec la nature ce qui se passe. En tant qu'immunologue, on pense à l'immunologie, mais il y a bien d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Et si nous avions des sortes de biomarqueurs qui nous montreraient qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malade, et qui nous montreraient qu'il y a donc un vaccin qui est induit, c'est-à-dire dans la phase, dès la phase 2, la phase clinique, on pourrait trouver des combinaisons qui permettraient de déboucher directement sur une phase clinique 3 avec donc expérimentation directe, à condition bien sûr que la sécurité soit respectée. Alors, nous avions une hypothèse. Nous disions quelles sont les différences de la réponse immunitaire entre les personnes exposées à la tuberculose mais en bonne santé et qui arrivent à opprimer de manière, à se prémunir de manière effective contre l'agent, et les autres qui tombent malades, qui développent une maladie. Et nous avons également regardé de très près qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont infectées à la fois par le VIH et par la tuberculose. Et à partir de là, développer des lignes directrices pour les diagnostics, pour tester de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins. Et tout cela se fait avec 7 instituts en Afrique et 6 instituts ailleurs en Europe et aux USA. Donc, c'est vraiment le principal projet Nord-Sud de la Fondation Bill Gates. Alors, je vous montre quelques images, ce que nous faisons également donc en Afrique du Sud. Je suis très heureux de montrer ce qui se passe avec notre institut Max Planck et la charité. On voit, par exemple, ici, une fondation anglaise qui a permis de construire ce centre ici. Et on voit ensuite, donc à 200 mètres, ce qui se passe pour la tuberculose et le sida. Dans les régions rurales, au Malawi, en Ouganda, à Kampala, Addis Abeba, 2 stations où il s'agit de traiter donc le VIH et la tuberculose dans les zones urbaines. Ici, donc, une population très bien limitée. Là, nous le faisons avec 3 instituts européens et avec 2 instituts des USA. Et dans un test, nous essayons d'amener de la science high-tech sur place, de ne pas faire seulement donc chez nous des choses qui ne seraient pas réalisables en Afrique. Au contraire, c'est le capacity building, la mise en place des infrastructures qui joue un rôle très important. Et nous voulons éviter à tout prix le colonialisme de la science à cet égard. 3 exemples concrets qui vous montrent comment nous progressons. Immunologie, nous avons maintenant donc 86 antigènes qui ont pu être sélectionnés et 20 qui sont utilisés donc dans les études longitudinales. nous parlons d'un échantillonnage total de 50 000 personnes qui sont recrutées pour les différentes études cliniques. Ce n'est pas nous qui les recrutons. On nous autorise ensuite donc à utiliser les échantillons. Ensuite, donc, la transcription des gènes. Nous décodons le génome humain et là, nous avons donc repéré 3 gènes différents pour l'infection latente, ce qui fait la distinction entre l'infection latente et la tuberculose active. Et puis, le métabolisme, là aussi, possibilité donc d'identifier les métabolomes qui font la différence entre l'infection, l'exposition et le déclenchement de la maladie. Voilà, c'est comme cela que ça se passe. Donc, sans cesse, de nouveaux antigènes qui sont analysés ensuite, qui passent ensuite sur les sites africains et qui, maintenant, donc, sont passés aux premières études longitudinales. Et là, par exemple, nous avons un génome qui nous permet de constater avec pas mal de précision ce qui se passe. Nous avons des bioinformaticiens qui travaillent avec nous et l'on fait les différentes études, les bioanalyses avec la lactoférine et avec avec 3 gènes, donc 3 gènes, on a la possibilité de distinguer si une personne est exposée et en bonne santé ou si elle est déjà malade. Et on ne peut pas distinguer si cette personne a d'abord la tuberculose ou une autre maladie, mais ce sont les premières indications ici, les premiers repères pour savoir donc s'il y a une défense immunitaire chez cette personne ou non. Pour les métabolomes, c'est quelque chose qui me fascine énormément, bien que cette étude n'ait pas été réalisée par nous, mais par des concurrents. C'est une société aux États-Unis. Mais bon, nous avions financé aussi, c'est pourquoi nous avons les données à notre disposition. Là, ce sont 17 adultes, hommes et femmes, aussi bien ayant une infection active que des gens qui sont exposés de manière latente. Vous voyez, 36 des 38 qui ont été bien diagnostiqués. Et il y a seulement une personne qui était jugée latente, mais qui est tombée malade. Donc, on a même un résultat encore supérieur pour les métabolomes. Il y a même aussi une prévision qui a pu être faite. Vous voyez les différences entre les aminoacides, le métabolisme des carbohydrates, etc. Là, nous avons la possibilité de faire des distinctions. Et juste un petit exemple, parce que c'est tout à fait fascinant. Vous trouvez ici des produits qui viennent de l'agent, mais aussi de l'environnement. Vous voyez, par exemple, ici, cet acide triméthoxynacine, qui vient des hortensias. Des hortensias, ce sont des personnes qui souffrent de la tuberculose et avec les métabolites de médicaments naturels, on arrive donc à trouver l'agent donc de la tuberculose. Ou bien ici, vous voyez par exemple donc la personne qui souffre et qui donc a des valeurs diminuer la quinurine, l'acide quinurine. Là, vous voyez les différences. Donc, ce sont des approches très intéressantes puisqu'on a ici une valeur plus élevée, là une valeur plus basse. Et ça nous permet de tirer énormément donc, de conclusions par rapport à cette analyse des métabolites, par rapport au déchiffrage du génome. Bon, pour terminer, je dirais la tuberculose, la recherche de Robert Koch a permis de savoir quel était le bacille responsable, mais cela a permis également d'avoir donc de l'argent dans les caisses de la recherche. La recherche sur la tuberculose qui a permis à l'époque de l'Empire de fonder un institut pour la recherche sur les infections. Et les disciples de Robert Koch ont créé, ont basé finalement l'immunologie ici. Et vous avez ici Paul Ehrlich, etc., qui sont vraiment les pères de la réponse immunitaire. Plus tard, un autre institut, l'Institut Pasteur, créé à Paris avec des bailleurs de fonds privés avant tout, ce qui est vraiment une différence entre la France et l'Allemagne. Mais bon, Pasteur, le père de la recherche sur la microbiologie, la recherche sur les infections. Et puis Menchnikov, qui est finalement donc le père de qui concerne la recherche sur l'immunité innée. Et il faut voir donc comment ces différents domaines s'articulent. Nous savons que l'immunité, la défense immunitaire innée ne peut pas fonctionner sans l'immunité acquise, et l'immunité acquise donc pas sans l'immunisation. Donc ce sont de l'argent qui a permis une floraison de la science. Et je pense qu'il faut revenir donc à la situation du passé, d'avoir donc des gens de la recherche fondamentale qui s'allient aux représentants de la santé publique pour pouvoir s'attaquer à toutes les grandes maladies telles que la tuberculose, le sida et le paludisme. Une citation en anglais ici de Voltaire. Nous ne sommes pas responsables pour ce que nous faisons, nous sommes aussi responsables pour ce que nous ne faisons pas, pour ce que nous omettons de faire. Et ceci vaut particulièrement pour ces maladies. Je vous remercie de votre attention.